Mickaël Ponge, bonjour.
Bonjour Clémentine, merci. Les 8h10 à Port-au-Prince et 2h de plus à Brasilia. Lula Bolsonaro, et si c'était ça l'affiche de la présidentielle au Brésil l'an prochain, l'ex-chef d'État, figure de proue de la gauche, Lula revient dans la course à la faveur d'une décision de la Cour suprême du pays. On revient aussi, nous, aujourd'hui sur le faux départ hier du procès de Derek Chauvin aux États-Unis, l'appel des religieux en Haïti au président Moïse, lui demandant de respecter la loi, et puis dans une quinzaine de minutes, vous nous emmenez en baignade du côté de la Guadeloupe, Benoît Ferrand.
Enfin, à vos risques et périls, parce que la qualité des eaux de baignade serait, paraît-il, de moins en moins satisfaisante en Guadeloupe.
Aïe, à tout à l'heure, Benoît, pour le journal de la première, et bienvenue à tous. Voilà donc qui pourrait rebattre les cartes politiques dans la perspective de la présidentielle de l'an prochain au Brésil. L'icône de la gauche, l'ex-chef d'État, Lula, vient de voir la Cour suprême du pays annuler toutes ses condamnations pour corruption au motif que le tribunal qui l'avait jugé n'était pas compétent. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Michael.
Les droits politiques de Lula sont ainsi rétablis. Il peut donc briguer en troisième mandat en 2022 face à l'actuel président d'extrême droite, en attendant que ses affaires soient à nouveau rejugées par un tribunal fédéral. Et ce matin, eh bien Stéphanie, le portrait de Lula est à la une de toute la presse.
Ouais, du coup, est-il de retour, s'interroge Oudia ce matin. Le journal rappelle que le procureur fédéral peut faire appel de cette décision. Un jugement courageux, estime de son côté la Folha de São Paulo. Les affaires de corruption soulevées par les procès contre Lula sont réelles, écrit le quotidien. Pour ne pas augmenter le discrédit du pouvoir judiciaire, ces affaires doivent être jugées selon les lois en vigueur.
Le juge Edson Fachin a toujours eu des liens étroits avec le Parti des Travailleurs. Sa décision ne nous surprend pas. La politique du gouvernement du Parti des Travailleurs était catastrophique. Je pense que les Brésiliens ne souhaitent pas que Lula se représente, et encore moins qu'il soit élu. Regardez, la bourse a chuté et le dollar a monté après la décision du juge. Une décision qui nous fait beaucoup de mal.
C'est le président Jair Bolsonaro qu'on vient d'entendre, Stéphanie, qui dénonce une décision partisane. Comment la presse réagit, elle, de son côté, à ce possible duel au sommet, donc Lula-Bolsonaro?
Eh bien, le journal conservateur O Estado accuse le président sortant d'être le principal responsable de ce possible retour de Lula sur la scène politique brésilienne, en se moquant continuellement des problèmes du pays et de la santé des Brésiliens. Bolsonaro a recréé le monstre, comprendre Lula, qui a déjà trop tourmenté notre pays, estime l'éditorialiste. Dans les colonnes du Globo, plusieurs analystes politiques s'accordent pour dire que la résurrection de Lula tombe pile au moment où Jair Bolsonaro est plus fragilisé que jamais. Confronté à de nombreuses crises dont les Brésiliens le tiennent responsable, le président sortant n'est plus qu'à 28% d'opinion favorable. Et pourtant, souligne le quotidien, une victoire de Lula est tout sauf acquise. Ses chances de gagner dépendront de son positionnement politique, estiment les experts. Si Lula mène une campagne radicalement à gauche, il aura du mal à remporter la victoire. Si, en revanche, il se place au centre, eh bien il pourra porter un coup terrible à Jair Bolsonaro.
Et peut-être en dira-t-il plus sur ses intentions à Lula, qui doit tenir une conférence de presse en début d'après-midi. La politique encore, mais qui nous emmène là en Bolivie. Les résultats définitifs des élections régionales et municipales de dimanche ne sont toujours pas connus. En tout cas, une chose est sûre, hein, Stéphanie, le MAS, le mouvement vers le socialisme, le parti de l'actuel président, fondé par son prédécesseur Evo Morales, essuie une cuisante défaite.
Oui, comme l'annonce le journal Correo del Sur, l'opposition est en tête dans les quatre principales villes du pays, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba et El Alto. Et El Alto, justement, c'est tout un symbole, souligne de son côté le quotidien La Razón, puisqu'il s'agit là de l'un des bastions politiques du MAS. La direction du mouvement vers le socialisme a d'ailleurs reconnu des erreurs dans le choix de ses candidats. Les membres du parti demandent que les responsables en tirent les conséquences et démissionnent, rapporte le journal.
Et pour le quotidien Los Tiempos, les électeurs ont envoyé en tout cas un signal clair.
Absolument, à savoir, par les temps qui courent, en pleine crise sanitaire, il faut dépasser les clivages idéologiques qui traversent la Bolivie. Fini les querelles politiques, l'heure est au pragmatisme. Je ne sais pas si le vaccin qui nous immunisera sera apporté par le président socialiste ou un gouverneur de droite ou notre maire, et ça m'est d'ailleurs égal. J'ai juste besoin de savoir que le vaccin arrivera pour ma famille et moi, explique l'éditorialiste qui conclut. Le résultat des élections semble montrer que nous sommes en passe de devenir un autre pays.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Il est 8h15, tout pile à Minneapolis, où l'on attend de connaître la réponse de la cour d'appel au sujet des charges qui pèsent contre Derek Chauvin. Ce policier blanc accusé du meurtre de l'afro-américain George Floyd en mai dernier, son procès s'est ouvert hier à Minneapolis avant d'être retardé donc sur cette question de procédure. Présente en tout cas hier dans la salle d'audience, Bridget Floyd, elle est venue du Texas pour porter la voix de son frère George. Eric DeSalve, notre correspondant et envoyé spécial aux États-Unis à Minneapolis, l'a rencontré.
C'est un moment que Bridget Floyd attendait et redoutait depuis 9 mois. La sœur de George Floyd a mis la tenue des grands jours, tailleur rouge, chapeau assorti et lunettes noires pour venir s'asseoir dans la salle du tribunal de Minneapolis et se tenir en face de Derek Chauvin, l'ex-policier qui a tué son frère.
I'm an emotional roller coaster right now.
C'est l'ascenseur émotionnel, hein, mais j'essaye de tenir le coup autant que possible, de rester solide. C'est ce qu'il aurait fait pour moi. Tout le pays parle de mon frère. J'aurais jamais imaginé que ma famille vivrait un jour une épreuve aussi difficile.
Bridget Floyd espère aujourd'hui que cette tristesse de la famille ne sera pas aggravée par un acquittement de Derek Chauvin.
Justice.
La justice, rien que la justice. C'est tout ce que nous voulons et c'est ce que nous aurons. Tout le monde doit répondre de ses actes.
Et après des mois de protestations consécutives à la mort de son frère cet été, Bridget Floyd appelle au calme, quel que soit le verdict attendu pour fin avril. Eric DeSalve, Minneapolis. RFI.
La sélection des jurés est un enjeu primordial dans ce procès. Cela doit débuter aujourd'hui en attendant donc la question des charges soit tranchée. Les débats de fond ne commenceront pas avant la fin du mois de mars. Les États-Unis où pour la première fois, Stéphanie Schuller, on vous retrouve, le nombre des morts du Covid est tombé en dessous de la barre de 1000 par jour.
Oui, ces dernières 24 heures, 749 Américains sont décédés à travers le pays des suites du virus, bien moins que les 4473 morts enregistrés par l'université Johns Hopkins le 12 janvier dernier.
Et c'est dans ce contexte que les autorités sanitaires américaines ont présenté hier des recommandations très attendues pour répondre à cette question que beaucoup se posent. Quel comportement adopter une fois qu'on a été vacciné ?
Oui, Américains vaccinés, que les rassemblements non masqués recommencent, mais doucement, titre en guise de réponse le New York Times. Les autorités sanitaires ont en effet annoncé hier que les personnes vaccinées contre le Covid-19 pouvaient se réunir entre elles par petits groupes en intérieur sans porter de masque et sans respecter la distanciation physique, rapporte le journal. En revanche, les vaccinés devront continuer à suivre les mesures sanitaires dans les espaces publics et continuer d'éviter les voyages et les grands rassemblements.
Les autorités donc continuent à prôner la prudence,
Oui, et ceci alors que plus de 60 millions d'Américains ont reçu au moins une dose d'un vaccin, détaille le New York Times. Le quotidien souligne l'importance de ces recommandations. Selon la Fédération des psychologues américains, environ la moitié de tous les adultes sont anxieux à l'idée de reprendre une vie normale, y compris 44% de ceux qui ont été vaccinés. Miguel.
Stéphanie Schuller, merci. La presse qui nous emmène aussi à présent à Port-au-Prince.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Port-au-Prince, où l'on retrouve notre confrère Godson Pierre, rédacteur en chef du site en ligne Alter Presse. Bonjour.
Bonjour, Michael.
La mobilisation toujours contre le président Moïse. Voilà que les religieux et religieuses se font entendre, Godson, pour demander au chef de l'État, dont on le rappelle, le maintien au pouvoir est toujours jugé inconstitutionnel par les oppositions. Ces religieux demandent au président de respecter les lois du pays.
C'est une lettre ouverte que les prêtres et religieuses à travers le pays adressent à Jovenel Moïse en tant que simple citoyen à l'occasion du 38e anniversaire de la visite du pape Jean-Paul II en Haïti. Trois questions majeures. À quoi cela sert-il de s'accrocher au pouvoir de façon même illégitime ou illégale quand plus de la moitié de la population vit dans l'insécurité alimentaire chronique? Pourquoi pourquoi vouloir à tout prix prolonger ou terminer un semblant de mandat sans pouvoir garantir la sécurité des vies et des biens, la libre circulation des personnes? À quoi sert un président ou un gouvernement incapable de stopper le train de la mort qui sème le deuil au sein de la population au quotidien? Voilà ce qu'écrivent les religieux, les religieuses à Jovenel Moïse, lui disant que le pays se meurt et que sa responsabilité est entière dans cette descente aux enfers.
Jovenel Moïse qui, justement, sur ces questions de sécurité, hier, a profité de la Journée internationale des droits des femmes pour lancer un appel à la paix en promettant, Godson, de traquer les bandits.
À la cérémonie de commémoration officielle du 8 mars, en effet, il a appelé les autres autorités du pays, notamment au niveau de la justice, le Conseil supérieur de la police nationale, de la sécurité publique, à faire des sacrifices pour rétablir la paix dans le pays. Nous devrions collaborer tous ensemble pour avoir la paix, déclare-t-il, tout en rappelant aux bandits qu'ils n'ont d'autre issue que la mort avant d'atteindre le deuxième âge.
Enfin, Godson, au sujet, à proprement parler, hein, de cette lutte pour les droits des femmes, la résistance domine, nous dit Alter Press.
Oui, c'est l'organisation CAEFAM qui déclare dans un communiqué à l'occasion du 8 mars que la résistance doit être le maître mot de ce mouvement, résistance du mouvement féministe qui a su se maintenir et s'enrichir continuellement malgré les difficultés, mais aussi résistance à la velléité de gommer la dimension politique du combat féministe, résistance aux attaques contre les libertés chèrement acquises et résistance à la volonté d'imposer à la nation un destin qu'elle n'a pas choisi. C'est sous ces slogans également que les femmes ont défilé dans le sud-est du pays à Jacmel.
Et tout ça est donc à retrouver, à lire sur votre site Alter Press. Godson Pierre, merci et à la semaine prochaine. Et l'on traverse le passage du vent et nous voilà en face. À Cuba, il y a 2 semaines, nous vous parlions d'une chanson, La Patrie et la Vie, fruit d'une union entre des stars de l'île et des artistes en exil. Chanson contre la répression et la censure. Énorme carton, elle a été écoutée des millions de fois sur les plateformes, dérangeant au plus haut point les autorités qui ont donc réagi à leur tour avec leur propre musique, Domitille Piron.
C'est un plaidoyer pour la liberté. La chanson Patria Vida use de l'allégorie d'un jeu de domino bloqué par 62 ans de révolution basée sur le slogan « La patrie ou la mort ». La chanson imaginée par Yotuel Romero prend donc le contre-pied de cette doctrine.
On ne peut plus admettre un régime qui te donne comme seule option de le soutenir ou de mourir. Nous sommes en 2021 et je crois qu'il y a des doctrines qu'il faut abolir définitivement. Et je crois qu'il est temps pour le monde de se rendre compte comment agit la dictature face à des personnes qui pensent différemment.
Mon peuple pleure et j'entends sa voix, chante Yotuel Romero. Nous sommes la dignité d'un peuple piétiné, entonnent Desemer Bueno et Alexander Delgado du très populaire groupe de reggaeton Gente de Sona, chante Mon peuple réclame la liberté et non plus des doctrines. Tous sont exilés et apparaissent dans cette chanson avec les rappeurs encore sur l'île Michael Osobo et El Funky. Pour eux, le quotidien est fait de surveillance permanente et d'accusations d'outrage. Dans ces conditions, la production de cette chanson a été un véritable défi pour Michael Castillo, de son vrai nom.
Ici, comme nous sommes surveillés tout le temps, nous avons dû nous comporter comme des voyous, en dormant cachés dans des ruines, avec les caméras et les projecteurs pour réaliser des vidéos. Mais c'était nécessaire parce que sinon le régime ne nous laisse pas filmer. Pourquoi ? Parce que nous avons la force de soulever le peuple et nous disons la vérité qui se reflète dans notre art avec des chansons, des représentations, et ça les dérange beaucoup.
Dans son couplet, Michael Osobo chante pour les artistes réprimés par le gouvernement cubain et défend le mouvement San Isidro qui lutte pour la liberté d'expression à Cuba. Dès le lendemain de la publication de cette chanson et vu son succès sur les réseaux sociaux, les autorités réagissent. D'abord au journal télévisé, le jeune journaliste officiel Lázaro Manuel Alonso.
Ils affirment avec de la colère sur le visage que c'est fini. Ils parlent d'affrontement et de la difficile situation économique du pays. Puis ces artistes pleurent devant la caméra et chantent en chœur avec d'autres qui se disent « artistes mais qui n'ont réalisé aucune œuvre.
Durant plusieurs jours, la presse officielle affiche alors en une le slogan « La patrie ou la mort » et rappelle son histoire et pourquoi Fidel Castro l'avait clamé pour la première fois. Les autorités affirment que cette chanson est médiocre et que ces artistes sont instrumentalisés et payés par la mafia anticubaine de Miami. L'ancien ministre de la Culture, Abel Prieto, défend à son tour dans les médias « La patrie ou la mort » face à la patrie et la vie.
Comme si le capitalisme sauvage et monstrueux pouvait représenter la vie face à ce que représente la révolution. Il est évident que des gens œuvrent à faire en sorte que leur prétendu mouvement ne meure pas.
Officiellement, la chanson est rejetée et les Cubains ne l'apprécient pas. Mais la réalité est tout autre, comme le prouvent les 2,7 millions de vues sur YouTube de Patria y Vida et comme le raconte le jeune Carlos, qui est actuellement en quarantaine dans le quartier populaire de Centro Havana.
Ici, il y a des gens qui mettent de la musique très fort et on l'entend dans tout le quartier. Et ils ont mis cette chanson plusieurs fois. Et ici, ils disent que les gens la rejettent et ne veulent rien savoir de tout ça. Mais ce n'est pas vrai, puisque moi, je l'ai entendu ici à Los Sitios. Et ça m'a touché.
Et pour répondre à Patria y Vida, l'artiste officiel Raúl Torres réalise en moins de 10 jours une contre-chanson, La patrie ou la mort pour la vie. Chantée avec 5 autres artistes inconnus du public, cette apologie de la révolution cubaine devient en fait la risée du web, notamment pour ses paroles. Comme à la révolution cubaine, il lui reste encore 62 000 millénaires. Une réaction et des critiques qui interrogent Yotuel Romero.
Si notre chanson a fait autant de bruit et qu'ils ont réagi en nous insultant et en nous méprisant, ce n'est pas pour rien. Pourquoi est-ce qu'ils consacrent du temps contre cette chanson s'ils disent qu'elle n'est rien et que ce ne sont que des mensonges?
Domiti Piron, La Havane, RFI.
8h26 à La Havane, il est une heure de plus en Guadeloupe.
Le journal de l'Outre-mer.
Et pour cela, on retrouve Benoît Ferron. Bonjour Benoît.
Bonjour Mickaël.
Alors la baignade, c'est pas une bonne idée en Guadeloupe, la qualité des eaux est de moins en moins satisfaisante, vous nous dites.
Oui, 105 sites de Guadeloupe ont été passés au crible par l'Agence régionale de santé et les résultats sont souvent médiocres, parfois mauvais. En cause, l'assainissement public ou privé, l'assainissement largement déficient. Valérie Denux est la directrice de l'ARS Guadeloupe. Elle est au micro de Sébastien Gilles.
Malheureusement, la qualité des eaux de baignade a tendance à se détériorer progressivement. Alors surtout dans les eaux douces, un petit peu moins au niveau des eaux de baignade en bord de mer. Ceci étant, il y a quelques sites un petit peu d'inquiétude. Ce qui est sûr, c'est que nous avons besoin de travailler sur l'amélioration des qualités des eaux de baignade, à la fois, bien sûr, dans le champ, bien sûr, de tout ce qui est assainissement, et ça aussi bien de manière collective qu'individuelle, mais aussi, bien sûr, travailler sur les profils de baignade, notamment lorsqu'il y a des fortes pluies, pour savoir comment gérer de manière préventive la qualité de l'eau de baignade. Et enfin, bien sûr, il y a des aspects naturels, comme les sargasses, mais aussi dans les eaux chaudes, des amibes, et il est vraiment important, bien sûr, de bien entretenir les bassins pour ça. Donc nous avons des cartographies qui sont mises à disposition, soit sur le site de l'ARS, site de la préfecture, et qui permettent à chacun de se repérer où sont les endroits évidemment les plus rassurants pour pouvoir se baigner en toute tranquillité.
Parlons maintenant des rencontres territoriales des maires des Antilles-Guyane, rencontres qui s'ouvrent ce mardi à Chelcher, en Martinique. Chelcher, dont le maire, Luc Louison Clémenté, est membre du conseil d'administration de l'Association des Petites Villes de France. Bertrand Caruge.
Pour raisons sanitaires, les échanges se dérouleront en visioconférence. Ils seront lancés par le président de l'APVF, l'Association des Petites Villes de France, Christophe Bouillon, maire de la ville de Barentin dans l'Hexagone, et par le maire de Chelcher, Luc Clémenté. 4 temps forts sont au programme de cette rencontre des maires des Antilles-Guyane. Le questionnement sur la place pour les petites villes dans le plan de relance pour l'outre-mer. Une séquence juridique avec l'avocat qui conseille l'APVF. 3e thème, quelle ingénierie pour les petites villes dans les contrats de relance et de transition écologique et la préservation de la biodiversité aux Antilles et en Guyane. Enfin, les maires antillo-guyanais qui prendront part à cette rencontre d'une journée se pencheront sur cette interrogation, quelle gouvernance et quelle politique de l'eau demain dans nos territoires?
Bon après-midi, Michael. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. On se retrouve demain dans notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques qui était réalisé aujourd'hui par Claude Battista. Une édition à retrouver comme toutes les autres sur notre site rfi.fr, mais également via nos réseaux sociaux sur Facebook et sur Twitter, @RFIAmérique. Très bonne journée à tous.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android. Autour de la question.
Caroline Lachowski s'intéresse.